Bonjour, nous sommes le lundi 26 septembre, il est 14h, vous écoutez Radio Campus, c'est l'heure de la relève.
Je voudrais être footballeur professionnel, styliste.
Pilote d'avion de chasse pour m'engager dans l'armée et défendre la population et tout ça.
Je voudrais devenir peintre, chef cuisinier, chef de commerce, biologiste.
La relève sur Radio Campus Paris.
Abline Majorelle.
Bienvenue pour ce premier numéro de La Relève avec Charles Flamand.
Bonjour.
Et Jérôme Duchamp.
Bonjour.
Charles Flamand et Jérôme Duchamp, bonjour. Charles Flamand, vous êtes copywriter chez La Chose, qui, comme son nom ne l'indique pas, est une agence de publicité.
C'est ça.
Voilà. Et Jérôme Duchamp, vous êtes l'aîné de peu de Charles et vous êtes CEO, comme on dit en français, de votre agence de publicité Spoke.
Absolument, qui est une agence de communication digitale et sociale.
Très bien. Donc aujourd'hui ensemble, vous évoquerez vos parcours, votre vision de la publicité hier, aujourd'hui et demain, et nous vous demanderons comment construire la relève dans votre métier.
Charles Flamand, bonjour. Qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois que vous avez entendu ça ?
Étienne va avoir un accident. Il mourra dans quelques instants sous les massages impuissants des pompiers. Sophie retrouve son petit ami. Elle se réveillera sur un lit d'hôpital. Mais ses jambes resteront endormies. Le père d'Étienne sera le premier à prendre sa mort. On ne le verra plus sourire. Son grand-père, lui, ne voudra pas croire à son décès. Sa femme porte dans son ventre un enfant qu'il ne verra jamais. Le père de Sophie sacrifiera tout pour la faire à nouveau marcher. Sa mère sera hantée par le souvenir de ses premiers pas. Son petit ami la demandera en mariage. Elle refusera, par amour. Derrière chaque victime de la route, il y a des victimes dans la vie. Sécurité routière, tous touchés, tous concernés, tous responsables.
Alors, j'y ai pensé beaucoup avant d'écouter cette voix. La première fois où j'ai écouté ça, c'était à la conclusion du projet, en fait. C'était quand on était passé par tous les stades de production, tous les stades de réalisation, où on était arrivé au bout du projet et où ça sortait. Et donc moi, c'était, quand j'ai écouté ça, en fait, c'était la première fois que je sortais un film, une campagne de publicité, et donc j'étais un peu ému.
C'était votre campagne, c'est vous qui l'avez écrit du début à la fin. Quel a été votre rôle exact dans cette campagne, justement ?
Moi, c'est ça, je suis concepteur-rédacteur, donc je travaille avec des directeurs artistiques. On est deux, Alexandre Faure, et Guillaume Ganti. Deux directeurs artistiques et un concepteur-rédacteur. Et donc, on a travaillé ensemble à l'élaboration du concept. Comme vous l'avez entendu, c'est derrière chaque victime de la route, il y a des victimes dans la vie. Et moi, mon rôle plus précis ensuite, quand on a eu cette idée, ça a été de la traduire par des mots. Quand eux l'ont traduit par des images, et ensuite ils ont donné la main, ils l'ont transmis à Bruno Aveillant, qui en a fait une image assez poignante.
Et vous, Jérôme, quand vous entendez
cette campagne,
vous en avez pensé quoi ? Vous ressentez quoi ? Surtout, vous avez travaillé pour la sécurité routière, vous aussi ?
Absolument. En fait, on avait travaillé déjà sur une précédente campagne qui avait été réalisée donc, par La Chance, qui précédait La Chose, et qui était autour des blessés de la route. Voilà, de dire que là aussi, il n'y a pas que des décès, il y a aussi des blessés, et c'est des blessés graves. Et c'est aussi important de le dire et de le rappeler. Toutes ces campagnes, elles ont à la fois effectivement un impact émotionnel extrêmement fort, mais elles ont aussi la capacité de faire changer des comportements durablement. C'est vraiment leur objectif, c'est qu'elles soient vraiment transformatives et qu'elles aient un véritable objectif sur la mémorisation, mais aussi l'action. Donc voilà, donc c'est toujours à ça qu'on pense et à quel point elle peut nous toucher de notre sensibilité, mais comment elle peut aussi être mémorisée au moment de l'action, c'est-à-dire au moment où on prend l'auto, au moment où on accélère, au moment où on va freiner, au moment où on respecte chaque panneau. Et c'est ça qui est important, c'est cette capacité à tracer vraiment ce message-là. Et je trouve que cette campagne-là a cette capacité-là d'aller bien au-delà d'un message, mais dans la capacité également de transformer derrière durablement des comportements.
Est-ce qu'elle n'est pas un peu trop belle ? En tout cas, quand on la voit, la réalisation d'Aveillan est magnifique. Avec, on voit toute cette nuée de personnages qui sont en suspension. Le message est très clair, mais c'est un débat récurrent dans ce genre de publicité.
Absolument, absolument. Alors, je sais pas si.
Bah moi, je peux avoir votre avis avant, oui. Si vous voulez.
Enfin, en fait, moi, je pense que d'abord, il faut tout tenter. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a toujours ce débat-là, et je dis souvent, je ne sais pas qui a raison ou qui a tort, mais alors on a essayé des images extrêmement violentes et avec des chocs.
On a déjà essayé beaucoup de choses.
Voilà, on a essayé et on voit qu'il y a aussi un impact très fort, mais en même temps, on l'oublie aussi rapidement qu'on l'a vu, parce qu'on ne veut pas se sentir concerné par cette expression-là qui finalement nous concerne trop fortement, et donc il y a un phénomène de rejet, voilà, d'attraction-rejet qui est opéré. On a aussi les choses qui sont beaucoup plus dans la prévention et qui parfois ne montrent pas les choses suffisamment, et là aussi, parfois, on peut avoir un refus de se projeter, puisque finalement, on ne marque pas suffisamment, et donc quelque part, celle-ci, elle est un petit peu entre les deux, c'est-à-dire qu'elle dit les choses fortement, elle les montre autrement pour que justement on puisse s'y attacher d'une autre manière et avoir cette fameuse mémorisation qui entraîne un comportement qui change.
C'est toujours la même problématique, essayer de parler, mais d'une manière différente comme on ne l'a jamais fait avant. Mm-hmm. Et donc c'est vrai que l'esthétisation de ce film, à outrance peut-être, mais de la mort, je pense que c'est un reflet de l'époque aussi, qui veut tout esthétiser, même la mort. Et que ensuite, cette belle image, c'était en effet une motivation depuis le départ. On voulait toucher à quelque chose de sublime, c'est-à-dire cet écart entre l'effroyable et le beau. C'est ça la définition du sublime, et c'est ce qui peut en fait toucher les gens. Donc c'est une stratégie aussi qui est mise en image ainsi.
Très simplement, quand on fait une campagne comme ça, est-ce que vous avez regardé tout ce qui avait été fait avant en
Bien
France,
sûr,
dans d'autres pays?
C'est le point de
est-ce
départ.
Que pendant des semaines, vous avez passé votre temps à regarder des publicités? Pour être la relève, en fait, est-ce qu'il faut s'intéresser au passé?
Alors, en fait, ce qui est assez étonnant avec la sécurité routière, c'est que c'est un sujet en fait, qui est dans l'inconscient collectif et dans la culture, en fait. J'ai été confronté à des publicités de la sécurité routière bien avant d'imaginer un jour en réaliser. Donc j'ai été touché par les campagnes de la sécurité routière bien avant en fait. Donc le benchmark, comme on peut l'appeler, il a été fait depuis bien longtemps. Mais bien sûr, c'est le point de départ de toute production d'idées et c'est le point de départ de toute campagne. Il faut regarder ce qui a été fait avant pour essayer de le faire différemment ensuite.
Est-ce qu'aujourd'hui on l'écrit différemment? Parce que, et là l'un et l'autre vous pouvez répondre, vous parce que vous avez une agence interactive aussi, est-ce qu'on écrit différemment aujourd'hui parce qu'on doit aussi écrire pour le web, parce qu'on sait qu'au bout de deux jours elle va être sur internet, sur un site qui commence par You et qui se termine par Tube?
Je pense pas, je pense que l'écriture je pense que c'est intemporel et universel, le fait de toucher les gens, le fait de transmettre un message. Certes, ça adopte différents médiums, mais là, en l'occurrence, c'est un film, donc c'est à l'ancienne, si on peut dire. C'est à l'ancienne. Alors après, c'est un film qui a eu une certaine viralité sur YouTube, mais c'est une façon de faire à l'ancienne qui marche aussi sur des médias très nouveaux.
En fait, l'écriture, effectivement, audiovisuelle, elle, n'est pas est inchangée, puisque finalement, toucher les gens en 30 secondes ou un format plus long, quel qu'en soit le support, participe des mêmes ressorts. En revanche, l'écriture de la campagne, elle, du dispositif de communication, intègre fortement le web, puisqu'aujourd'hui, on le voit, donc on touche et on cible la plupart du temps à travers ce type de campagne à nous qui sommes remplis de paradoxes. C'est-à-dire qu'en fait, on sait parfaitement bien qu'accélérer, ne pas regarder les panneaux, regarder son téléphone, boire ou fumer, ou enfin, faire des choses qui seront possibles au volant, entraîne un aspect accidentogène, et pour autant on le fait. Donc on est plein de paradoxes. Donc ce que la communication va chercher à faire, et ce qu'on va réussir, ou tenter de réussir sur le web, c'est transformer ça en solution concrète. Comment on peut avoir, en complément d'un film qui va toucher nos émotions et notre mémorisation, essayer d'avoir un peu des nudges ou des choses, des services, des solutions que la sécurité routière...
Le nudge. Je sais pas ce que c'est un nudge,
c'est ces actions en fait qui touchent, enfin ça a lieu des sciences cognitives, ce sont des petites choses comme ça qui vont vous permettre de changer de comportement entre deux choix et qui vont vous amener donc à prendre une décision plutôt qu'une autre.
Et donc ça vous le faites pour tout aujourd'hui, dans toutes les campagnes que vous travaillez, vous réfléchissez nativement, j'ai envie de dire, aussi à une déclinaison web et à ce que vous allez mettre en place pour...
Absolument. Pour... Absolument. Donc sur cette campagne-là et sur celle qui précédait, à l'agence, donc, on a conçu une application qui s'appelle Mode Conduite. Et Mode Conduite, c'est finalement le prolongement de cette campagne-là, puisque si on veut, entre autres, donc, ne pas utiliser son téléphone en voiture et le dire haut et fort, il faut aussi apporter une solution. Or, l'insight, c'est-à-dire ce sur quoi le comportement sur lequel on va agir, c'est que on a tous la crainte du FOMO, hein, donc la peur de manquer quelque chose, et surtout peut-être d'un appel important parmi nos proches. Et donc, Mode Conduite, c'est une application qui a été conçue à l'agence et qui permet, pendant que vous conduisez, de désactiver toutes vos applications, sauf le GPS, hein, qui est la seule application qui est autorisée par la loi, et qui va envoyer automatiquement un message informant tous ceux qui essayent de vous joindre, quelle qu'en soit la forme, que vous êtes en train de conduire, et ce message est sponsorisé par la sécurité routière. Donc c'est une manière, finalement, d'automatiser des messages au nom de la sécurité routière et vous permet de répandre la bonne parole auprès de tous ceux qui essayent de vous joindre alors que vous êtes en train de conduire.
Épileptique et suicidaire, Ian Curtis chantait pour Joy Division au début des années 80 cette version crépusculaire d'une vérité éternelle, « Love will tear us apart again ».
La relève, tous les lundis à 14h sur Radio Campus Paris.
Alors, en fait, donc, comme vous n'avez pas tout à fait le même âge et que...
C'est un peu notre principe.
N'est-ce pas ? En fait, je me demandais si ça changeait quelque chose d'être un digital native ou pas pour concevoir ce genre de stratégie publicitaire et communicative.
Donc ça s'adresse à moi en premier ?
Ben, malheureusement.
Alors, je ne sais pas, puisque je n'ai pas été l'un et l'autre.
Jérôme Deschamps, pardon.
Voilà. Donc, je n'ai pas été l'un et l'autre, donc je ne peux pas comparer.
Bah, c'est ça, moi, j'aurais répondu pareil.
Voilà, donc c'est pas évident. En revanche, ce que je peux dire, c'est que je suis digital native professionnel. C'est-à-dire que je suis né avec le web au moment où j'ai commencé à travailler. Je ne suis pas né à la date de ma naissance, 3 ans, avec une tablette entre les mains. J'espère que mes parents ne me l'auraient pas mise aussitôt entre les mains. Mais je suis né avec le web, donc quand même avec une connaissance particulière du média digital et de son évolution. Donc ça, c'est important. Ensuite, ce qui est surtout extrêmement important, c'est la culture. Effectivement, ceux qui baignent dans cette culture-là et qui font du média digital, finalement, leur centre d'intérêt total toute la journée. Et ça, eh bien, j'ai une équipe qui m'entoure et qui m'amène effectivement tous les éléments en termes de direction artistique, d'inspiration, de planning stratégique, de conception, rédaction, et qui, eux, le sont, j'allais dire, beaucoup plus que moi. Et en fait, ce qui est vrai aussi, c'est que vous avez digital native et digital native finalement. Il y a ceux qui sont nés avec les bannières, il y a ceux qui sont nés avec les sites, il y a ceux qui sont nés avec les applications, il y a ceux qui sont nés maintenant avec les bots, il y a ceux qui viendront demain avec la robotique. Donc finalement,
la réalité virtuelle.
Et la réalité virtuelle, le VR qui est à la mode en ce moment. Voilà, donc finalement, ce qui est important surtout, c'est de comprendre la révolution qui est en route, avoir du recul par rapport à tous les enjeux que ça représente et comprendre cette culture, c'est-à-dire la culture de l'auto-formation, la culture de la transparence, la culture de la performance, la culture de l'ouverture, la culture du croisement des chemins. Voilà, une fois qu'on a compris tout ça, quel que soit son âge, eh bien, je pense qu'on arrive à quand même tracer sa route sur le digital.
Charles ouais. Flamand.
Alors moi, donc comme je disais, j'ai pas vécu la période précédente.
Agacez-nous, allez-y.
Pardon.
Agacez-nous, allez-y.
Oui, donc j'ai pas vécu la période précédente, le digital age, donc je pourrais pas comparer en effet. Et je rejoins Jérôme sur le fait que c'est une culture, mais qu'on vit avec tous les jours sur les réseaux sociaux et en surfant sur le web. Donc on l'expérimente chaque jour, et donc cette culture, ensuite on peut s'en servir pour pouvoir parler aux gens et en utilisant en fait tous ces moyens de communication nouveaux. Ce sont juste des nouvelles opportunités de communication et qu'on vit chaque jour en nos noms.
Et est-ce qu'aujourd'hui on recrute les mêmes personnes dans la publicité plus globalement, au-delà de vos expériences, de ce que vous voyez? Longtemps la publicité c'était un milieu un peu pour les autodidactes, il suffisait de savoir un peu écrire, on disait qu'on pouvait devenir le roi du monde dans la publicité. Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui si je suis un roi de Snapchat, je peux rentrer chez vous par exemple, Jérôme Duchamp?
Absolument, vous avez forcément...
C'est pas de mal à veille, ça c'est sûr.
C'est-à-dire que le monde de la communication de manière générale s'inspire de talents qui sont des multiples talents et des gens qui sont extrêmement agiles. Ça c'était vrai avant sur d'autres médiums, ça l'est aujourd'hui sur des nouveaux médias. Donc ça c'est extrêmement clair. Demain vous êtes spécialiste de Snapchat, vous avez votre place. Alors je sais pas si c'est un poste à part entière, mais en tout cas vous pouvez toucher à l'influence, vous pouvez toucher au format de création sur Snapchat.
Il y a des directeurs artistiques entièrement dédiés au Snapchat par exemple d'un magazine comme Vice ou Combini.
Absolument, donc vous avez toujours votre place à tous les niveaux et quant aux études un peu ce à quoi vous faisiez référence par rapport à la provenance, là aussi c'est extrêmement ouvert. Vous avez des gens qui viennent de la techno et qui deviennent créatifs technologistes, des créatifs qui basculent sur du design, enfin vraiment les passerelles sont extrêmement fortes, des planeurs stratégiques qui peuvent basculer sur la conception rédaction. Voilà, ce qui était vrai avant sur des postes qui portaient un autre nom est également vrai aujourd'hui dans le domaine du digital.
Et vous, Charles Flamand, alors vous étiez un pro de quoi? Vous étiez le roi de Facebook? Comment vous êtes arrivé dans la pub?
Moi, par mes études déjà.
Ouais. Vous êtes lesquels?
Moi, je suis un littéraire, ensuite passé par Sciences Po pour essayer de trouver un aboutissement, en tout cas un moyen de vivre dans cette réalité quotidienne. Et donc Sciences Po m'a permis de transformer mes études littéraires en un métier et c'est comme ça que je suis arrivé en fait avec la pub m'est tombée dessus.
L'un et l'autre, est-ce que vous pensez que c'était mieux avant?
Avant quoi?
Avant maintenant, en général.
Et mieux quoi?
Ah non, ce sera mieux demain. Moi je pense que ce sera mieux demain.
En général,
même de moi je suis un optimiste. Ouais.
Non, je vous pose la question parce que chaque semaine donc. Notre chère Abeline Majorelle va nous expliquer pourquoi c'était ou ce n'était pas mieux avant. Et pour cette première, tout est cherché, hein, ça vient de loin. Hein. Et pour cette première, donc, elle a choisi. Ça vient d'avant, ouais, voilà. Et pour cette première, elle a choisi un thème qui peut-être va vous surprendre, mais qui a fait les heures de gloire de la télévision. J'en dis pas plus.
Donc, pour cette première chronique, j'ai décidé de vous demander comment vous alliez. Littéralement, ou plutôt originellement, car vous ne le savez peut-être pas, mais l'expression « comment allez-vous » vient de ce délicieux moment qui était le lever du roi, auquel assistaient familles, courtisans, mais surtout les médecins du roi, une sorte de bulletin de santé quotidien où l'on s'enquérait avec empressement auprès du possesseur du trône de la qualité, la quantité, la couleur, etc. de ses selles. D'où la question « comment allez-vous » Sous-entendu, comment êtes-vous allé à la selle? Le sens premier de cette expression est tombé en désuétude et avouons que cela ne nous manque pas et que l'on préfère même l'avoir remplacé par un appel à l'ami du petit déjeuner.
Mais pourquoi, cher Abeline, nous plonger pour cette première chronique dans, si j'ose dire, le fonctionnement de l'intestin? Vous avez décidé de remplacer Julia Enders, l'auteur du best-seller qui fait un carton, l'histoire de l'intestin?
Non, pour tout vous dire, c'est à cause d'une petite vidéo qui circule sur les internets, créée par la marque Quitted Northern, qui nous propose un papier toilette, tout ce qu'il y a de plus écologique, de plus rustique, de plus Pierre Rabhi, c'est-à-dire le pape de la sobriété heureuse, qui préfère utiliser les toilettes sèches, si on peut dire. On y voit un homme tailler un copeau de bois large dans un tronc en bande, le ciseler au poinçon pour en faire un rouleau de papier toilette. Bref, un vrai PQ fait avec du vrai boulot.
Du boulot, c'est-à-dire de l'arbre, hein, pas du travail. Là, vous nous parlez de l'avenir, mais je vous rappelle que votre chronique se demandait si c'était mieux avant. Donc
c'était oui, comment enfin, avant pas d'impatience. Sachez mais... donc que non, tout n'était pas mieux avant, et surtout le nettoyage de cette région sensible après usage. En Grèce antique, on utilisait des morceaux de céramique circulaire appelés pessoï. Et mis à part les Chinois qui possédaient jalousement la technique depuis le 2e siècle, tous les autres peuples ont utilisé de l'herbe, de la pierre, de la laine, de la neige, jusqu'en 1857, date où Joseph Gaietti, aux États-Unis, décide de fabriquer du papier toilette. Et ce n'est qu'en 1935 que ce même papier sera enfin garanti sans écharde. Ça, c'est de la pub. La France, elle, a considéré jusqu'aux années 80 que c'était un luxe et s'en est lavé les mains, préférant se torcher avec la presse-papier. Jusqu'aux années 80, où le marché commence à péter le feu, si on peut dire. Environ 27 000 arbres sont utilisés quotidiennement pour produire ce papier molletonné à épaisseur triple. Écologie oblige, beaucoup de papiers sont depuis les années 2000 des papiers recyclés. Alors vous voyez, c'était pas vraiment mieux avant.
En tout cas, ce que je sais, c'est que je n'écouterai plus jamais de la même façon la chanson « Comment ça va » de Patrick Bruel.
La relève, tous les lundis à 14h sur Radio Campus Paris.
Les produits de grande consommation, la publicité aujourd'hui, elle est pour rebondir sur ce sujet, je ne sais pas si on peut rebondir dessus, enfin bon,
c'est pas évident.
Continuer dans cette lancée, marcher dedans du pied droit alors, est-ce que, moi j'ai souvenir, j'ai un peu de bouteille, que quand j'étais plus jeune, il y avait des publicités rigolotes avec du budget, ces publicités on ne voit plus du tout, c'est fini la publicité pour les produits de grande consommation, ça a changé, là aussi on va plutôt vers du net, vers des choses plus simples.
En fait elles existent toujours ces publicités, sauf qu'elles prennent d'autres formes, d'autres lieux, alors des lieux où peut-être finalement les cibles directes ne vont pas forcément, mais j'allais dire qu'il y a toujours autant de, on va dire, d'ironie, d'humour, d'irrévérence que l'on peut retrouver, j'allais dire plus encore peut-être sur le web qui est un espace d'expression maintenant qui est extrêmement ouvert, et surtout d'autres formes qui sont moins des formes publicitaires mais plus des formes de contenu que les marques vont initier, parfois plus cachées, parfois plus mises en avant. Mais en tout cas, le terrain d'expression est toujours aussi large, voire même un petit peu plus large, avec le contenu qui est généré par les marques et par les gens eux-mêmes.
Charles Flamand, un avis sur la question?
Moi, je pensais à la publicité qui a été produite par BETC sur le produit lavant, et ils ont réussi à en faire quelque chose de très créatif. Ils ont réussi à faire d'un produit lavant une vraie performance de danse, en fait. Donc, c'était sur tous les sujets, même les plus prosaïques, on peut être créatif, et c'est ça le vrai défi, en fait.
Mais est-ce qu'on a... J'aime celle sur le soupe, Alain. Voilà. Je tiens à le dire.
On pourra le noter en ce 26 septembre.
Je me demandais en fait s'il y avait encore des sujets tabous dans la pub. Des sujets qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas aborder.
Je ne sais pas s'il y en a des tabous. En tout cas, il y en a qu'on peut ne pas vouloir soi aborder pour des raisons d'éthique, de conviction personnelle. Voilà.
C'est quoi les vôtres?
Par exemple, j'avais à l'époque, je ne citerai pas l'agence, un budget d'un cigarettier. Et en particulier, l'objectif était de concevoir des campagnes d'affichage dans des pays en voie de développement pour promouvoir des cigarettes. Et j'ai vite arrêté, j'ai pris le brief et puis j'ai demandé à sortir du budget parce que je ne me sentais pas du tout à l'aise. La communication, c'est une croyance quand même, hein, c'est une volonté de transmettre un message positif, un message auquel on croit. C'est pas juste augmenter le chiffre d'affaires, booster des produits, on essaie quand même aussi de rendre service, on essaie de changer un comportement de manière durable. Pas que sur les nobles causes ou sur les grandes causes, mais sur toutes les causes. C'est ça aujourd'hui l'enjeu pour les marques, hein, c'est de remonter au-delà même du produit, mais également sur les aspects beaucoup plus corporate. Et voilà, et pour moi, ça touchait vraiment à la limite de mon éthique que de travailler dans ce domaine-là.
Si Alain Delon vous entendez, lui qui a donné son nom à une marque de cigarettes.
Charles Flamand, quels sont vos tabous professionnels?
Vous êtes jeune encore? J'ai pas de tabou particulier. En effet, les cigarettes, heureusement que tout ça, les publicités sont interdites. Donc, moi, j'ai travaillé sur la mort, et c'est quand même déjà pas mal. C'est quand même un sujet tabou, et pouvoir en parler de manière juste, c'est extrêmement compliqué, mais passionnant en même temps.
Le tabou, ce serait de faire quelque chose de pas juste.
Ce serait pas un tabou là, ce serait une faute professionnelle, et ce serait très très embêtant. Mais en même temps, ça nous reviendrait au visage. Assez rapidement, je pense.
Est-ce qu'aujourd'hui, le film publicitaire, c'est toujours le Graal pour un publicitaire? Est-ce que ces 30 secondes qu'on va placer à la télévision, ça reste la création la plus belle, ou est-ce que, avec le développement de nouvelles expressions, il y a d'autres possibilités?
Je laisse le créatif répondre en premier.
La télévision, enfin, on voit quand même, la publicité, c'est fait quand même de 90% de choses. De choses laides et de 10% de choses belles. Il y a quand même dans la publicité, quand on travaille dans la publicité, on sait qu'on va passer une partie de son temps sur des choses qui ne nous font pas forcément plaisir, mais on sait qu'on va peut-être avoir l'opportunité de travailler sur un sujet passionnant. Donc ce qu'on voit à la télé, en fait, c'est aussi, je pense, le reflet de la société. C'est fait de beau et de moins beau.
Et c'est laid parce que le client aime le moche? Je veux dire le client, c'est-à-dire l'annonceur?
Non, le client a ses objectifs, mais le créatif, lui, espère qu'un sujet, intéressant lui tombera dessus. Mais pour ça, il faut un peu de chance, comme dans la vie.
Jérôme Duchamp?
Oui, non, le Graal, je ne sais pas, le Graal pour tout le monde, c'est quoi? C'est d'avoir le bon combo entre une justesse créative, stratégique, et évidemment en répondant aux objectifs de la marque. Et aujourd'hui, alors à l'époque, on le trouvait dans le 30 secondes, parce que c'est un terrain d'expression, l'audio et le visuel, qui évidemment ne se trouvaient que à travers un 30 secondes à la télé ou au cinéma. Maintenant, sur le web, il y a un champ d'expression qui est extrêmement important. Donc le Graal s'est déplacé, il s'est démultiplié à travers de nouvelles formes, qui sont aussi des 30 secondes spécifiques pour le web, ou même des formes narratives qui peuvent durer 1 minute, 2 minutes 30. Vous pouvez faire aujourd'hui des web-séries, des cours qui répondent eux aussi à des enjeux de marque. Des marques comme Red Bull aussi, qui ont créé des événements extrêmement importants avec des logiques de contenu très très fortes, sont tout autant un Graal. Donc en fait, il s'est démultiplié. Le Graal, c'est vraiment ça, c'est d'avoir le bon combo, le bon sujet, et d'arriver à avoir la capacité à bien s'entendre, ce qui est à la base d'une bonne relation entre une agence et puis son annonceur.
Puisqu'on parle de Graal, et ça fait le lien aussi avec la question précédente. Ok. En fait, le Graal, je pense, dans la publicité, c'est la nouveauté. C'est la nouveauté, il faut toujours faire du nouveau. Et le tabou dans la publicité, c'est de répéter quelque chose qui a déjà été fait.
On approche de la fin. En deux mots, qu'est-ce qui a le plus changé, ou qu'est-ce que vous anticipez, qu'anticipez-vous qui va le plus changer? Voilà, c'est la fin.
En gros, comment vous voyez l'avenir de la pub?
Elle me reformule bien.
Virtuel. Je pense une expérience complètement immersive. On ne regardera plus la télé, on regardera la pub autrement, comme on regarde des films autrement.
Voilà, et l'autre manière de le dire, c'est vraiment l'expérience. Voilà, on va expérimenter maintenant la pub, on va être vraiment dans le sujet et puis seulement dans la contemplation du sujet.
Merci beaucoup à vous deux, merci beaucoup.
Merci à vous.
Vous venez d'écouter le premier numéro de La Relève, une émission proposée et présentée par Christophe Biss.
Et Abeline Majorel.
À la technique, Tiffany.
Et à la réalisation, si Tiffany, elle fait tout.
Bonne semaine à tous et à dans 167 heures.
Pour une nouvelle relève. Au revoir.
À bientôt. Au revoir.